BFM Business présente Good Morning Market.
L'actualité des marchés financiers, c'est sur BFM Business dans un instant. L'ouverture, Étienne Brack, quelle est l'ambiance?
Un CAC 40 qui est attendu en très légère hausse dans un instant, après avoir baissé de 2% hier soir à la clôture, moins 3% pour le DAX à Francfort. La bourse allemande qui est repassée hier en séance sur ses plus bas d'avril dernier. Il faut revenir au Liberation Day, aux droits de douane, pour voir un DAX au niveau d'hier. Du côté de la bourse de Paris, on est sur des plus bas de septembre-octobre, avec donc des prix de l'énergie hier qui ont monté en flèche. Depuis, ça s'est dégonflé en partie, hein, puisque le baril de pétrole qui tutoyait les $120 hier à la mi-journée et ce matin à $108, qu'on a une petite baisse ce matin sur les cours du gaz en Europe qui cède un peu plus de 2% sous les 60 euros le mégawatt-heure. Donc c'est une nouvelle bouffée d'air pour le marché action. On le verra dans l'émission. C'est vrai que maintenant les cours de l'énergie sont un peu devenus le VIX des marchés. Vous savez, c'est l'indice de volatilité. Bon, bah, quand les cours de l'énergie progressent, les indices baissent, les obligations progressent. Et bien, quand les marchés des matières premières à l'inverse baissent, et bien c'est une bouffée d'air pour les indices actions. Du côté de Wall Street, une nouvelle fois, on a trois indices américains qui ont très largement surperformé, dans le sens où hier soir, le Nasdaq a perdu seulement 0,3%, moins 0,4% pour l'indice Dow Jones, avec des entreprises américaines qui sont plutôt confiante sur la situation. Quand vous écoutez FedEx qui a publié ses résultats hier, qui ne voit pour l'instant pas d'impact sur la demande, qui arrive pour l'instant à relever ses prix. Quand vous écoutez Micron dans le secteur des semi-conducteurs mercredi, qui a dévoilé des résultats au-delà des attentes, ou encore Accenture qui a publié des résultats qui là aussi ont surpris positivement. Bref, une fois de plus, ça confirme la tendance. Cette tendance, c'est que en temps de conflit, en temps de période géopolitique complexe, les indices américains surperforment et ça se voit très clairement cette fois-ci.
Un mot de conjoncture, et là, Christine Lagarde qui voit l'inflation remonter.
Oui.
Remonte les perspectives. 2,6 dans le scénario central pour l'inflation d'ici la fin de l'année, 4,4 dans le scénario catastrophe.
Alors que cette cible d'inflation de 2% venait d'être atteinte. Hein. Christine Lagarde qui avait quand même mis 4 ans pour atteindre sa cible de 2%. Et là, patatras, eh bien, elle voit à nouveau plus d'inflation pour cette année, moins de croissance. Trois scénarios qui ont été développés hier par la Banque Centrale Européenne et un effet ricochet immédiat sur le marché obligataire, dans le sens où le 10 ans allemand a touché les 3%. C'était une barre symbolique qui n'avait pas été franchie depuis 2011. Le 10 ans français se détend un petit peu ce matin. On est à 3,6%, mais là aussi, on est sur des plus hauts de 15 ans. Et ça, ça stresse un petit peu le marché, car forcément, cette remontée du marché obligataire va se répercuter sur le coût du crédit pour les États, bien sûr, mais aussi pour les entreprises et les ménages, si, bien sûr, cette situation perdure.
Un bond au-delà des 3%, on n'a donc pas vu ça depuis 2011. Le CAC 40 qui ouvre à l'instant.
Plus 0,8%. L'indice qui flirte avec les 7900 points. En tout cas, il s'en rapproche. 7871 points à l'ouverture. Plus 0,8% pour l'Eurostoxx 50. Les valeurs cycliques qui ont été malmenées hier se reprennent. ArcelorMittal est la plus forte hausse du CAC 40 à l'ouverture avec un gain de 2%, suivi de BNP Paribas plus 1,7 à 85,97. Saint-Gobain, Eiffage ou encore Accor suivent également la tendance avec des hausses de plus de 1,5%. À l'inverse, les valeurs qui ont bien fonctionné hier cèdent la marche ce matin, sont en bas du tableau, plutôt moins 0,8% pour Total Energy, qui a touché hier un record historique. On en parlera d'ailleurs à 9h20 avec François Dossou. Le titre a quand même gagné 40% depuis le début de l'année, ce titre Total Energy. Voilà, plus haut historique. Hier, on était au-delà des 79 euros. Et donc ce matin, une petite pause de 0,8%, idem pour Thales ou encore pour Orange. Du côté de l'once d'or, qui a touché des plus bas de fin janvier hier, on est sur une hausse de 2%, $2,700 pour une once d'or, quand du côté de l'argent, vous avez également un gain de 2% au-delà des $72 pour cette once. L'euro-dollar tient la barre des 1,15, notamment depuis la prise de parole hier de Christine Lagarde, 1,1475, et donc le 10 ans français qui se stabilise à 3,6%. Le CAC 40 est donc dans le vert à l'ouverture, plus 0,8% après une baisse de 2% hier à 7871 points.
Au menu de Good Morning Market.
Tout au long de l'émission, nous reviendrons bien sûr sur cette semaine intense des banquiers centraux avec donc la Fed, la BCE, la Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre. Bref, n'en jetez plus. Tout au long de l'émission, nous reviendrons sur ces sujets avec Daniel Gerino de Carlton Selection, Isabelle Matteo-Silago, la chef économiste de BNP Paribas, et Romain Aumont de Natixis. Et puis nous parlerons bien sûr de cette semaine chahutée sur les marchés, François Dessous en plateau. Et puis nous reviendrons également sur les valeurs qui ont fait l'actualité cette semaine avec quelques publications qui, vous le verrez, sont plutôt marquantes.
Bonne émission, bon week-end à lundi.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brac.
C'est parti pour Good Morning Market. Et donc le CAC 40 est sur une hausse de 0,8% à la porte des 7900 points. C'est une séance importante aujourd'hui avec l'échéance trimestrielle sur les produits dérivés, l'éclairage de Charles Janus qui nous attend depuis la Benne Épargne en quelques minutes. Et puis à 9h30, nous recevrons la deuxième IPO de l'année. Jean-Michel Caram, le fondateur de Yeva Group, viendra nous parler de son groupe qui va donc rentrer en bourse à la Bourse de Paris à la fin du mois. Il s'agit d'un groupe de cosmétiques. C'est la deuxième introduction en bourse après, souvenez-vous, Rising Stone il y a un mois. Juste avant, retour sur les banques centrales avec Daniel Gérineau, économiste et actuaire, président de Carlton Sélection. Bonjour Daniel, merci de nous consacrer quelques minutes ce matin. Bon, comment vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, avec donc un Bund qui retrouve les 3% pour la première fois depuis 2011, et puis la BCE qui craint un retour de l'inflation et un impact sur la croissance?
Oui, bonjour Étienne. Ben écoutez, nous, on constate qu'on est dans un complet changement de régime économique. Hein, on vit ça en temps réel. Auparavant, le conflit, il était géopolitique. On voyait bien quand même que c'était un problème entre États. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable choc énergétique mondial. On n'est plus dans une simple réaction de marché aujourd'hui. Hein. C'est une véritable pénurie sur le physique du marché de l'énergie, notamment le pétrole et maintenant le gaz. Donc, ce point clé aujourd'hui sur le pétrole, c'est quoi? C'est une désorganisation totale des flux. Aujourd'hui, on voit que le détroit d'Ormuz il est complètement engorgé. On n'a plus du tout de possibilité de faire passer des bateaux, si ce n'est avec des coûts phénoménaux. On a eu des frappes sur les infrastructures énergétiques. Tout ça, ça crée évidemment une rareté du brut qui est disponible. Mais surtout, il y a un phénomène qui est assez peu marqué et indiqué, c'est que on constate que le marché du physique, qui est différent du marché du brut, des indices comme le Brent ou le Whitey, est en train de littéralement exploser. Si vous regardez le marché physique du brut omanais, il atteint 154 $ le baril. Il faut vraiment voir cet aspect-là parce que c'est ce qui donne le « là » sur les indices du Brent et du Whitey, qui sont souvent un peu en retard sur les vraies valorisations du cours du pétrole. Donc ça indique que le niveau du pétrole risque encore de monter, et tout ça, c'est pas très très bon, évidemment, pour l'inflation, puisqu'on a constaté qu'il y avait une tension possible sur l'inflation, hein, c'est la conséquence directe de ce choc macroéconomique qui est extrêmement violent. L'énergie, bah, elle est en train de refaire partir à la hausse, sans doute ponctuellement, l'inflation, et ça risque de peser aussi sur la croissance, sur le coût des entreprises, parce que les entreprises vont avoir des coûts qui vont s'accroître. Ça va réduire le pouvoir d'achat des ménages. Tout ça, c'est en fait, on est en train de rentrer dans le pire des deux mondes, c'est-à-dire plus d'inflation et moins de croissance. Et pour l'instant, bon, on n'a pas encore de signe de stagflation dont on parle actuellement, hein, mais c'est quand même des notions qui apparaissent. Alors nous, chez Carlton, on pense que tout ça, c'est quand même très, très ponctuel et que pour le coup, les banques centrales, aujourd'hui, puisque c'est un peu le sujet principal, les banques centrales, elles sont un peu piégées. Vous l'avez vu, hein, la Fed comme la BCE, bah, elles sont en mode attentiste. Elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à définir les stratégies qu'elles doivent mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que bah, elles font face d'un côté à un choc inflationniste, hein, mais le problème, c'est que c'est un choc d'inflation qui est lié à la demande. Et on sait que quand le choc est lié à la demande, eh bien, n'est pas lié à la demande, pardon, on se retrouve avec une difficulté à contrôler l'inflation. C'est pas comme ce qu'on a connu à la suite du Covid. Cette inflation, elle est importée via l'énergie, donc difficile à contrôler. Donc, si elle monte les taux d'intérêt par la suite, comme l'a indiqué Christine Lagarde, hein, vraisemblablement en avril, elle veut monter les taux d'intérêt. Moi, je pense que c'est un peu prématuré de dire ça. Elle risque d'aggraver le ralentissement économique, et notamment en zone euro où les choses se passent pas si bien, parce que vous avez vu que la croissance a été révisée à 0,9, donc il reste plus vraiment grand-chose, et qu'en Allemagne, la situation n'est pas brillante du tout. Mais en même temps, si elles ne font rien, elles risquent de laisser l'inflation s'installer. Donc c'est vraiment le dilemme, avec des causes différentes, qu'on avait en 2022. Et on se rappelle qu'à l'époque, les banquiers centraux avaient tardé un peu à réagir. Et là où il nous semble qu'aujourd'hui les banquiers centraux ont intérêt quand même à prendre un peu du recul, on a le sentiment qu'elles veulent compenser un peu cette critique qu'on a pu leur faire, d'être un peu derrière la courbe et pas en anticipation. Donc,
sans compter que les cours du gaz sont toujours élevés, Daniel Gérino. Encore ce matin, on a un TTF, alors certes, qui se stabilise, mais qui est à 60 euros le mégawattheure. Pour rappel, en février, on était à 25-30 euros. On est sur des plus hauts de 2023. Là aussi, l'impact sera non négligeable pour l'industrie, en particulier pour l'industrie allemande.
Absolument. Et ça, ça va être un facteur que la Banque centrale doit prendre en considération, parce que vous savez que les Allemands sont quand même très présents au niveau de la Banque centrale. Les industriels allemands frappent à la porte de la BCE en disant « faites attention parce que nous, on est attaqués à la fois dans notre production par la Chine, on a une énergie qui nous coûte très très cher, vous l'avez cité, le gaz a atteint des niveaux élevés ». Alors, aujourd'hui, sur le gaz net européen, sur des indices, un autre indice, on est à 70 euros le mégawattheure. Il faut savoir que pendant la crise Covid, on avait atteint 341. Alors, on en est très loin, mais attention, le niveau standard, c'est plutôt 25-30 euros le mégawattheure. Alors, il y a un autre élément aussi qui est à prendre en considération. On n'a jamais eu, je crois que c'était jeudi, donc hier, on a eu un écart entre le prix du Brent et le prix du Whitey qui a été le plus haut historique depuis 2 ans. Donc, tout ça, ça montre une désorganisation, en fait, du marché de l'énergie. Et puis des enjeux très importants pour la Banque centrale. Si la Banque centrale se loupe, clairement, elle peut nous emmener droit dans le mur. Donc nous, on pense chez Carlton que la Banque centrale a quand même intérêt à être assez prudente et attendre un peu avant de se lancer dans des hausses de taux, parce que on ne sait pas comment ce conflit va être réglé. On est sûr que Trump, s'il ne met pas un terme à ça, il ne gagnera pas les mid-termes. S'il ne gagne pas le mid-terme, il y a de fortes probabilités que l'impeachment le sorte du jeu, littéralement. Donc, ce qui veut dire qu'on rentrerait dans une zone de troubles assez importante. Donc, moi, je pense que dans un scénario central, tout sera fait pour faire baisser ce prix du pétrole et calmer le jeu au niveau de, notamment du détroit d'Hormuz, pour revenir à des notions d'inflation plus stable. D'ailleurs, les anticipations d'inflation que regarde la BCE, mais que regarde également la Fed, ils ont monté, mais pas à des niveaux très, très élevés. Hein. C'est des toutes petites hausses. Hein. Donc, je pense que tout ça, c'est un petit peu, on est dans l'œil du cyclone. Mais vraisemblablement, tout ça, ça doit déboucher quand même sur un peu de à la fois de la patience et un petit peu de recul, parce que agir à chaud, ce serait vraiment une erreur.
Les grands indices européens ont perdu 8-10% là depuis leur plus haut historique. Le DAX est sur des plus bas d'avril dernier, la Bourse de Paris ou l'Eurostoxx 50 par exemple sont sur des plus bas de septembre-octobre. Est-ce qu'aujourd'hui là dans les portefeuilles, vous avez envie de vous dire tiens, il commence à avoir des dossiers intéressants, ou est-ce que non, pour l'instant c'est encore trop tôt?
Alors, moi, je pense que, de toute façon, quand vous voulez faire de bonnes affaires, faut acheter au son du canon et vendre au saut de clairon. Ça, c'est un vieil adage et ça marche très bien. Alors, évidemment, faut pas se précipiter, mais on peut commencer à rentrer dans le marché. Faut bien se dire, il y a très, très peu de temps, si on vous avait dit, bah, écoutez, vous allez pouvoir rentrer sur le marché à 8000 sur le CAC 40, tout le monde se serait jeté dessus. Bon, aujourd'hui, on est à 7009 et, globalement, il y a quand même certaines valeurs qui sont très intéressantes sur lesquelles on peut commencer à regarder ces dossiers. Après, il ne faut pas se tromper au niveau des secteurs. Il y a des secteurs sur lesquels les taux d'intérêt sont extrêmement sensibles. Je pense notamment aux utilities. Et je pense aussi à l'énergie, parce que l'énergie aujourd'hui, c'est un des secteurs qui a fait plus de 60% depuis le début de l'année. On peut se dire, ah ben, c'est bien, ça va continuer. Attention, si le conflit se règle, ce secteur va se dégonfler littéralement. Alors aujourd'hui, rentrer dans ce secteur, c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, il y a des secteurs qui seront sans doute très intéressants et qui sont aujourd'hui un petit peu délaissés, c'est notamment les financières. Pourquoi ? Parce que les courbes de taux d'intérêt se sont plutôt bien aplaties, hein, avec un niveau qui a remonté globalement. Donc, c'est pas très très bon pour les banques. Hein. Les banques, vous savez, quand la courbe elle est pentue, c'est très intéressant parce qu'elles empruntent à court terme pas cher, elles placent à long terme plus cher avec des marges qui sont intéressantes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et nous, on pense que la courbe des taux va se remettre correctement avec une pontification de nouveau plus forte. Donc, c'est un bon moment pour rentrer sur les banques. C'est un bon moment pour rentrer aussi sur les matériaux, puisqu'il va y avoir énormément de reconstruction à faire une fois les conflits apaisés. Et aujourd'hui, ils ne sont pas très très chers. Aux États-Unis, c'est un des secteurs qui tient le mieux. Il fait 4% depuis le début de l'année. Par contre, en Europe, on est à moins 16, pratiquement moins 17. Vous voyez, il faut pas aller chercher les secteurs qui ont le plus monté, parce que là, vous allez payer la plus-value des autres. Il vaut mieux, au contraire, aller rechercher des secteurs qui sont utilisés pour l'après-guerre, qui sera peut-être sans doute assez rapide, mais également regarder entre autres sur des secteurs comme la techno, où il y a Alors, en étant extrêmement discriminant dans ces sélections, mais il y a quand même des valeurs qui sont des valeurs absolument d'avenir, sur lesquelles on ne pourra pas faire d'impasse, ou des secteurs de défense. Le secteur de la défense, ça reste un secteur très intéressant, puisque tous les pays de la zone euro vont devoir se réarmer. Et sur les taux d'intérêt, aujourd'hui, vous avez la partie la plus, et c'est le plus entre guillemets dégradé, mais elle est, c'est pas très grave dans la mesure où c'est des papiers très courts, c'est les taux entre 1 an et 3 ans. La courbe a carrément remonté sur cette partie-là. Pour les investisseurs qui sont sur du monétaire, c'est très intéressant de basculer aujourd'hui sur ce type de papier, sur des durations comprises entre 1 an et 2 ans, parce que là, vous captez des taux très intéressants que vous n'aurez plus. C'est vraiment acheter une opportunité qui ne se représentera sans doute plus. Donc, conclusion, on pense que maintenant, on va rentrer dans un monde qui va être sans doute un tout petit peu plus compliqué, hein, puisqu'on voit que les aspects géopolitiques prennent beaucoup plus de place que par le passé. Donc, ça veut dire qu'en termes d'allocation d'actifs, il faut être extrêmement réactif. Il ne faut pas non plus camper éternellement sur certains secteurs, parce que, encore une fois, les rotations sont assez rapides avec les perturbations.
Le luxe, par exemple, encore là, aujourd'hui, Hermès est sur des plus bas de 2023. LVMH est toujours proche des 450 euros. C'est bien un secteur qui aujourd'hui est délaissé.
Absolument. Et alors, on le voit, il est extrêmement délaissé. Et pourtant, la conso discrétionnaire dans laquelle se trouve le luxe est le deuxième meilleur performeur du Stock 600. Mais oui, ce sont des opportunités qui sont extrêmement intéressantes parce que aujourd'hui, on price quasiment un arrêt de consommation sur l'Asie, un effondrement de la consommation en Europe. Or, justement, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, dans ce contexte compliqué où on redoute une inflation qui, à mon avis, durera pas très longtemps, il faut prendre des sociétés qui ont du pricing power. Ces sociétés-là, elles ne redoutent pas l'inflation. Et précisément, des Hermès, des LVMH, enfin, toutes les valeurs des L'Oréal sont des valeurs qui se sont littéralement effondrées et qu'il faut ramasser. C'est intéressant de le prendre. Ce sont des valeurs de long terme. Vous n'êtes pas sur un risque d'une société qui risque de basculer. LVMH, c'est une capitalisation boursière colossale, ce sont des marchés mondiaux, c'est une croissance importante, c'est une réactivité qui est très 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 forte. Donc on a des opportunités. Les périodes difficiles où les marchés baissent, ce sont justement les points d'entrée qui vont faire votre performance de demain.
On est au bout. Merci beaucoup Daniel Girino de nous avoir accompagné ce matin. Merci. Président de Carlton Sélection, économiste et actuaire. Hermès est l'une des rares baisses ce matin, -0,5%, 1734. À l'inverse, LVMH progresse d'un peu plus d'1% à 465 euros quand le CAC 40 lui progresse de 0,9% à 7877 points. Charles Janus, directeur général de la Belle Épargne, nous accompagne ce matin pour décrypter un petit peu la séance du jour, une séance importante avec l'échéance trimestrielle aujourd'hui sur les indices actions. Bonjour Charles, bon, comment vous regardez ce rebond, -2% hier et là une hausse de 0,9%?
Bonjour Étienne, tout d'abord ravi de vous retrouver. Bien écoutez, l'indice CAC 40 pour l'instant il n'a rien franchi, hein. Il est toujours mal orienté structurellement. Ça fait plusieurs jours déjà qu'il était mal orienté. Alors hier, le gap baissier a encore mis plus à mal la tendance. On est toujours bloqué sur ce qu'on appelle une moyenne mobile à 200 jours, et ça depuis une semaine. Donc pour rappel, une moyenne mobile à 200 périodes, c'est un niveau clé pour les opérateurs. Au-dessus, on est positif et enclin à prendre du risque. En dessous, on est plutôt dans des marchés baissiers qui invitent à la prudence. Et pour l'instant, ce niveau clé, donc qui est utilisé par les investisseurs pour qualifier la tendance de long terme, et il constitue un signal négatif. Ça fait une semaine qu'on est en dessous, et on a eu des multiples échecs avant le gap baissier d'hier. On a eu, 3-4 fois, on a essayé pendant 3-4 jours d'essayer de franchir ce niveau. Et en fait, ça vient renforcer la solidité de cette résistance, donc ça sera très difficile à franchir. Et en plus, cette moyenne mobile à 200 périodes, elle est située sur un niveau clé psychologique, le seuil des 8000 points. Et donc, c'est vraiment ce niveau à reprendre en clôture, d'un point de vue technique, pour qu'on ait une embellie sur le CAC 40 et peut-être un jour revoir 8002, 8003. Mais voilà, c'est vraiment le niveau à surveiller ces prochains jours, ces prochaines semaines. Si jamais les événements géopolitiques continuent de se détériorer, eh bien, il faudra regarder vers les plus bas d'hier et surtout ensuite vers les 7700 points, même si pour l'instant on voit que le CAC 40 tente de stabiliser avec une belle ouverture ce jour. Alors le seul élément en fait qui est un petit peu difficile aujourd'hui pour le CAC 40, c'est qu'il y a peu de composantes qui pourraient l'aider à repartir à la hausse. Bon, il y a évidemment Total Energy, vous l'avez rappelé en début d'émission, super hausse depuis le début d'année, rien que 12% de hausse en une semaine. Donc assez fulgurant, évidemment porté par la hausse du prix du baril. Le contexte géopolitique porte la valeur évidemment, mais aussi microéconomique. Hein. On a quelques éléments comme l'annonce potentielle d'un paiement d'environ 1 milliard de dollars par l'administration américaine auprès du géant pétrolier et gazier suite à l'abandon potentiel d'un projet éolien offshore à côté de New York. Donc évidemment, voilà, il y a la micro plus la macro qui vient porter la valeur. Mais à côté de ça, en fait, quand vous regardez les composantes, Sanofi AXA sortent à peine la tête de l'eau. On est à peu près à plus 1, plus 2 sur une semaine avec le contexte géopolitique. Et tout le reste évolue dans le rouge. Tout le reste, donc vous l'avez dit, les bancaires, le segment du luxe, évidemment, qui se fait taper dessus. Pourquoi ? Parce que la partie voyage, c'est très important pour eux. Ça représente à peu près un tiers du volume de chiffre d'affaires. Donc évidemment, avec le contexte où les voyageurs peuvent plus se déplacer avec des prix d'avion qui sont plus chers à cause du kérosène et du pétrole, et évidemment des vols qui sont annulés ou détournés, bien évidemment ça pèse sur ces compartiments-là. Donc pour l'instant, on a un avis plutôt neutre, on va pas passer trop négatif évidemment sur l'indice parisien, puisqu'on a tenu pour l'instant les plus bas du lundi 9 mars. Mais tant qu'on est sous les 8000 points, force est de constater que c'est difficile d'être acheteur. Il faudra vraiment casser ce niveau à la hausse, la moyenne mobile à 200 périodes, les 8000 points, pour retrouver une embellie sur l'indice parisien.
7878 à l'instant, une hausse de 0,9%. Dans un instant, avec François Dossou, nous parlerons de Total Energy ou encore Accenture. Charles Janus, peut-être un dernier mot sur la séance de Wall Street. C'était frappant hier soir, une nouvelle fois, de voir des indices européens céder 2-3% et du côté des États-Unis, une hausse modeste. Hier soir, les trois indices américains ont perdu à peine 0,4%.
Alors oui, alors ils ont un peu été aidés par des propos du Premier ministre israélien qui a dit que certainement que la guerre pourrait s'atténuer à court terme parce qu'ils avaient rempli leurs objectifs militaires. On verra ce que ça donne. Évidemment, c'est plus facile pour les Américains de tenir puisqu'ils sont moins exposés au prix du baril puisque eux, ils ont leur marché, ils sont autosuffisants en pétrole. Et puis en plus, ils sont plus portés sur les valeurs technologiques que nous en termes de composition sectorielle au sein des indices. Et en plus, ces valeurs-là avaient beaucoup baissé, donc même elles pourraient faire office de valeur refuge si jamais on devait rapatrier des capitaux sur le territoire américain en cas d'accentuation du conflit. Donc pour l'instant, c'est une situation normale, mais eux aussi sont sur des niveaux clés, Nasdaq 100, S&P 500, etc. On est proche de gros niveaux de support, de moyenne mobile à 200 périodes, comme sur les indices européens. Et il faut pas venir enfoncer ces niveaux clés-là, sinon on va changer de psychologie, de narratif chez les opérateurs en parlant de marché baissier, si on les cassait. Voilà.
Merci beaucoup Charles de nous avoir accompagnés ce matin. Charles Janus, le directeur général de l'Appel Épargne, pour décrypter les marchés européens et les marchés américains. Le CAC 40 progresse donc de 0,8%, plus 1,2% de progression pour l'Eurostock 50. En portefeuille, comme chaque jour, 9h22, avec ce matin, François Dossou, le directeur de la gestion action de Siena IM. Bonjour François.
Bonjour Étienne.
Bon, alors aujourd'hui, Total Energy fait une pause. On verra dans un instant quand même qu'on a un parcours spectaculaire depuis le début de l'année, plus 40% depuis le 1er janvier. Mm-hmm. Comment vous regardez un petit peu là ce qui se passe sur les marchés actions? Je lisais ce matin, le VIX est devenu aujourd'hui, le baril de Brent, c'est devenu un petit peu le VIX des marchés. C'est vrai que maintenant, tout dépend un petit peu des variations des matières premières.
Oui, absolument. Vous savez que en fait, en quelque part, Total Energy performe bien parce que c'est un des seuls endroits en bourse où on peut aujourd'hui à peu près se réfugier. Et donc, ce qui se passe, c'est que Total Energy, en réalité, n'a pas changé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour que, si vous voulez, le prix du baril ait un impact sur les résultats de Total, il faudrait en fait que ce prix de baril reste, il plafonne très très haut. Et aujourd'hui, les investisseurs n'achètent pas Total Energy parce qu'en fait, ils croient particulièrement en baril qui va aller à $150, mais ils redécouvrent Total Energy parce qu'il faut savoir que nous sommes là en face d'une grosse contradiction qui est que nous sommes le continent, nous sommes en Europe, nous avons l'économie la plus décarbonée, nous avons les leaders comme Total qui sont les plus avancés dans la transition énergétique, mais pour des raisons de flux liées aux interdictions ESG, en fait, notamment aux labellisations qui sont de plus en plus strictes et qui interdisent l'investissement dans Total, on se retrouve à ne pas avoir de Total. Et donc, quand le baril du pétrole commence à s'enflammer, naturellement, tout le monde se dit « Ah, ben c'est peut-être une bonne idée d'avoir du Total ». Et certains, j'espère, n'en sont pas à s'asseoir sur leurs convictions extra-financières pour aller chercher, en fait, une sorte de protection sur les valeurs. J'ai envie de dire ce qui devait arriver, arriva. En fait, nous avons une grosse pression sur l'extra-financier. Et aujourd'hui, en fait, le financier rattrape l'extra-financier. Et on se rend compte que finalement, la transition énergétique, on ne peut pas la faire contre des valeurs comme Total et que, quelque part, Total est un acteur économique et que si aujourd'hui la performance est aussi forte, c'est bien parce qu'il y a des investisseurs qui achètent du Total Energy parce qu'ils trouvent que Total Energy a un sens économique. Donc Total, si vous voulez, Total a plutôt aujourd'hui le vent en poupe, mais j'ai envie de dire, l'environnement de Total n'a pas changé, c'est juste que nous sommes rattrapés par une réalité, notamment des investisseurs qui ne voulaient pas entendre parler de Total Energy.
C'est un proxy, hein, forcément, du pétrole. On le voit encore aujourd'hui, le pétrole baisse un peu, le titre Total baisse. Hier, le pétrole s'envolait, le titre Total était l'une des rares progressions. On est à 78 euros aujourd'hui sur ce titre Total Energy. Oui. Comment vous l'appréhendez? Comment vous le gérez, vous, dans vos portefeuilles chez Siena?
Alors, dans nos portefeuilles, en fait, nous sommes très clairs. C'est-à-dire qu'à la fin, Total Energy n'est pas un titre... Total Energy, aujourd'hui, a une exposition de plus de 20% aux fossiles, donc il est exclu sur les portefeuilles extra-financiers. Donc, nous ne pouvons pas nous exposer au titre Total. Mais, en fait, sur les stratégies sur lesquelles vous n'êtes pas sur les stratégies de labellisation, vous avez encore une possibilité de vous d'investir sur des acteurs autres que Total Energy, notamment sur Eni, en fait, qui passe certains filtres. Donc, aujourd'hui, nous avons une exposition sur certaines pétrolières dans certains portefeuilles, mais sur les portefeuilles labellisés, force est de constater que l'exclusion totale de toutes les pétrolières nous interdit de nous exposer au titre Total. Et c'est une très bonne question, parce qu'en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un client qui est en fonds labellisé, notamment le label V3 avec son exigence sur l'exclusion totale des pétrolières, vous avez quand même, j'espère que le client a bien compris que sa conviction extra-financière à court terme peut être... pour rentrer en collusion avec une performance financière. Autrement dit, pour les fonds labellisés V3 aujourd'hui, sachant que le secteur de pétrole affiche la meilleure performance sectorielle depuis le début du mois, c'est difficile de suivre les indices de référence. Et donc, ce retard, aujourd'hui, doit être expliqué avec beaucoup de pédagogie aux investisseurs qui ont fait des choix de ne pas s'exposer, en fait, aux valeurs pétrolières.
On a encore eu quelques publications d'entreprises cette semaine aux États-Unis. Typiquement, hier soir, FedEx, hein, qui est très optimiste. Visiblement, la demande est toujours là depuis le début du mois, malgré la guerre au Moyen-Orient. En milieu de semaine, mercredi soir, c'était Micron. Là aussi, les résultats étaient au-delà des attentes. Et puis, il y a une publication qui était redoutée. C'est la publication de Accenture, dans le sens où, pour Wall Street, Accenture est un groupe perdant de l'intelligence artificielle.
Oui, absolument. Et comme vous avez remarqué, en fait, en préouverture, le titre, il perdait 3% et finalement, il a fini par progresser. C'est exactement l'analogie qu'il faut faire avec un titre comme Capgemini, dont j'ai parlé, en fait, lors des précédents passages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché a une lecture relativement dichotomique sur les acteurs de l'IA, en considérant, en fait, que tout le monde est capable de fabriquer sa propre IA, alors que pour les petites et moyennes entreprises, c'est moins évident. Donc, aujourd'hui, vous avez des titres, alors pour mettre juste les choses en perspective, Accenture s'est valorisé jusqu'à 20 fois l'EBITDA en bourse dans les années 2020.
Sachant que ça a perdu 30% là en l'espace d'un an.
Oui, absolument. Et donc aujourd'hui, nous sommes revenus à un EBITDA, à une valeur d'entreprise qui est 8 fois l'EBITDA. Donc vous avez quand même une sanction qui est relativement forte et qui a suivi la baisse du titre. Et aujourd'hui, sans pour autant être plus contrariane, c'est sûr que vous avez des opportunités dans le marché sur des secteurs sur lesquels, si vous voulez, pour des raisons de flux, pour des raisons de gestion systématique et l'IA est aussi pour quelque chose, la capacité à détecter de manière trop rapide les perdants de l'IA offre aujourd'hui des potentiels sur des titres comme Accenture. Mais nous avons une préférence sur Capgemini, sur lequel nous avons vu que malgré le fait que le titre soit massacré en bourse, il affiche quand même un carnet de commandes qui est au plus haut sur les 5 dernières années, avec donc un potentiel de revalorisation du titre qui reste relativement important. Il y a toujours une prime entre Capgemini et Accenture, en fait, qui sont dans le même secteur. Cette prime s'est beaucoup compressée, mais nous sommes aujourd'hui plus positionnés sur Capgemini.
Dans quelques minutes, nous serons avec Jean-Michel Caram, le fondateur de Yeva, qui va rentrer à la Bourse de Paris dans quelques jours. Juste avant, qu'est-ce que vous faites là dans les portefeuilles, François Dossou?
Alors,
après une baisse de 10% là depuis les plus hauts du CAC 40, et puis des indices européens qui sont délaissés par rapport à Wall Street depuis la guerre.
Alors, nous continuons. Nous étions déjà exposés sur certains titres comme Saint-Gobain, en fait, qui sont des titres qui ont beaucoup... Alors, Saint-Gobain, c'est assez extraordinaire ce qui se passe sur ce titre. C'est-à-dire qu'en 20 séances de bourse, le titre a progressé 2 fois. Je voyais qu'il montait aujourd'hui en séance, mais le titre n'a cessé de baisser. Alors, quand vous regardez, à force de baisser, Saint-Gobain, en fait, est revenu à ses niveaux de valorisation d'il y a 5 ans. Or, il y a 5 ans, le titre, en fait, avait une marge de 8,5. Et aujourd'hui, cette marge, elle est au-delà de 11%. Donc, vous êtes en train de payer, de valoriser un titre qui a améliorer sa marge de 300 bébés telle que vous le payez à l'époque. Effectivement, c'est une vision plutôt contrariante parce que vous avez les taux qui sont pas favorables. Vous avez le résidentiel en Europe qui est 20% en dessous du niveau de 2019. Vous avez aussi l'activité toiture, notamment aux États-Unis, qui a été très défavorable du fait de la faiblesse des ouragans. Donc, vous avez quand même, pour faire simple sur Saint-Gobain, deux tiers de l'activité qui est en creux de cycle, avec une valorisation qui est au tapis, donc un potentiel de rebond. Pour quelqu'un qui n'est pas pressé, je regardais tout à l'heure, en fait, le niveau de valorisation actuel de Saint-Gobain, c'est celui qu'on avait connu il y a 4 ans. En 3 ans, le titre a été multiplié par 3. Donc, quelqu'un à horizon de 3 ans, vous ne prenez pas aujourd'hui beaucoup de risques à vous investir sur un titre comme Saint-Gobain, qui a retrouvé par-dessus tout un pricing power et une capacité à pouvoir mieux manager en fait les coûts.
Plus 2% ce matin pour ce titre Saint-Gobain à la porte des 70 euros, 69,64 €. En effet, le titre est sur des plus bas de mars 2024, donc sur des plus bas de 2 ans, et il a perdu plus de 30% depuis ses plus hauts de l'an dernier. Merci beaucoup François Dossou de nous avoir accompagné ce
matin,
directeur de la gestion de Siena IM, la gestion Action. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. Nous accueillerons donc la deuxième introduction en bourse de l'année. Il s'agit d'un groupe de cosmétiques, Yeva Group. Jean-Michel Caram, son fondateur, sera avec nous. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous serons avec Isabelle Matteo-Silago, la chef économiste du groupe BNP Paribas, et Romain Aumont de Natixis IM, afin de revenir sur cette semaine des centraux. Oui, mais que peuvent faire les banques centrales face à cette remontée des cours du pétrole et du gaz? Réponse dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
Après avoir cédé 2% hier soir à la clôture, le CAC 40 rebondit de 0,8%, 7871 points, plus d'1% pour l'Eurostock 50, grâce notamment à une petite accalmie sur les matières premières. Le baril de Brent cède de près de 2% à $107, quand sur les cours du gaz, vous avez une baisse de 4% ce matin pour le TTF, c'est la référence en Europe, 60 € le mégawattheure. Tout cela profite notamment aux valeurs cycliques qui étaient hier sanctionnées. Renault, Arcelor ou encore Saint-Gobain sont les plus fortueuses de l'indice, alors que à l'inverse, Total Energy et Hermès cèdent la marche. L'once d'or se stabilise à $4,727, quand sur le front des devises, l'euro-dollar tente de tenir la barre des 1,15. Comme chaque vendredi à 9h30, c'est un dirigeant d'entreprise qui nous accompagne ce matin en plateau, Jean-Michel Caram. Bonjour Jean-Michel Caram.
Bonjour, merci
d'être
m'accueillir.
Avec nous. Bah avec plaisir, vous êtes le fondateur de Yeva Group. Vous allez rentrer en bourse à la fin du mois, hein. Ça sera votre première séance le 31 mars. Aujourd'hui, les personnes intéressées ont jusqu'au 25 mars inclus pour participer à votre introduction en bourse. Exactement. Votre objectif aujourd'hui, c'est de lever 8 millions d'euros afin de vous développer, faire des acquisitions dans le secteur de la cosmétique, de la beauté.
Exactement. L'opération est ouverte jusqu'au 25 mars. Nous avons, sur les 8 millions, un engagement ferme de la BPI qui est de 3 millions d'euros, donc 38% de l'enveloppe, avec une volonté de remonter dans le capital et même une intention de remonter dans le capital et au moins doubler la position dans les 12 prochains mois. Yeva Group, c'est une maison de marque, de services et d'expérience de beauté personnalisée, activée par l'IA, la tech et la data, le tout porté par le storytelling, le contenu et les communautés. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir la technologie, la science et le communauté au service de la beautiful longevity, ça veut dire vieillir sans s'effacer et incarner sa beauté jusqu'au bout.
Et comment aujourd'hui vous pouvez vous différencier dans un marché qui est quand même très concurrentiel?
Bravo.
Puisque aujourd'hui, demain vous allez rentrer en bourse, vous serez une micro-cap, vous allez faire face à des géants des cosmétiques, notamment en France, hein, puisque c'est vrai que la France a quand même des champions sur ce marché, face notamment à des acteurs asiatiques, également des Japonais qui sont très forts. Comment aujourd'hui vous pouvez faire la différence?
Nous sommes différents en plein de choses. Nous sommes différents par notre technologie, qui est le socle très fort de l'entreprise. Nous avons la meilleure technologie aujourd'hui dans le monde de la beauté qui nous différencie complètement. Nous sommes différents par notre approche qui est le Netflix de la beauté. Et je rappelle qu'aujourd'hui, 55% de notre chiffre d'affaires est en abonnement, alors que les autres vendent leurs produits et leurs services d'une manière fragmentée. Nous avons fait en 5 ans, qui est la vie du groupe, plus de 43,4 millions d'euros. Nous allons doubler cette volumétrie dans les 3 prochaines années. Nous venons en bourse surtout pour faire des acquisitions et grossir vite. Il y a une intention, et c'est ce qui a amener la BPI à nous soutenir, de construire un champion national qui se tient debout comme le leader mondial de la beauty tech.
Alors vous êtes autant présent dans le e-commerce avec, vous l'avez souligné, typiquement My Little Box, où ce sont des box
sur lesquelles exactement.
Aujourd'hui des clientes s'abonnent sur des produits de cosmétiques, des boutiques physiques également
avec l'atelier
Paris.
Du sourcil.
Et demain, des acquisitions. Aujourd'hui, d'après les résultats de 2025, vous avez 5 millions de trésorerie nette. Vous allez oui. donc lever 8 millions d'euros.
Oui.
Ça va vous donner les ambitions aujourd'hui pour faire des acquisitions. Ça sera non. suffisant à quelle ampleur ?
Nous avons 5,4 millions de trésorerie nette, mais nous avons 10,8 millions de cash, de trésorerie disponible, auxquels vont s'ajouter le résultat net de l'opération. Donc, on sera autour de 17-18 millions de trésors. Ceci va nous permettre... en fait, il y a aussi à savoir une chose, c'est que l'entreprise devient rentable sur 2026 en EBITDA. Et nous avons un excédent en fonds de roulement et pas un besoin de fonds de roulement, donc c'est du BFR négatif, ce qui fait que la masse d'argent que nous avons sera surtout mobilisée pour soutenir notre stratégie d'acquisition, qui, elle, va être aussi complétée par la monnaie d'échange qu'on va avoir en étant coté.
Votre objectif, ça a toujours été de grossir via notamment des acquisitions. C'est ce qui a boosté ouais. votre chiffre d'affaires. 45 millions, quasiment 43 millions plus précisément l'an passé, plus 70%
annuel.
Pour l'instant, ouais. le groupe n'est pas rentable. Hein, vous avez perdu 5 millions l'an passé. Est-ce que vous arrivez à donner des objectifs ouais. chiffrés là, ouais. sur la rentabilité pour vos actionnaires
sur la perte de l'année dernière, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont exceptionnelles et qui ne sont pas de cash. Ça veut dire qu'on a fait un impairment test, on a tout préparé pour l'introduction en bourse, l'EBITDA réellement, on a perdu 1,4 million. Cette année, nous passons à un EBITDA positif et nous nous orientons dans les deuxième année et troisième année autour de 16% de résultats.
BPI a souscrit, en tout cas s'est engagé à participer à hauteur de 3 millions d'euros sur les 8 millions d'euros qui vont être levés. Donc j'imagine que sur les 8 millions, avec le roadshow que vous avez fait, il y a déjà une bonne partie qui est enclenchée.
À 3 fois chez BFM déjà.
Comment vous allez faire évoluer le capital ? Parce que c'est vrai que vous allez avoir BPI, TF1, d'autres grands groupes également.
Oui, Unilever, Crédit Mutuel.
Voilà, c'est des actionnaires qui vont sortir peut-être au fur et à mesure des mois.
La première chose, c'est qu'il y a un engagement de l'OCOP de 180 jours pour 100% du capital. Donc il n'y aura pas de retour sur le marché avec des papiers à la folie là. Beaucoup de nous, de gens qui s'associer à ce projet et continuer à soutenir dans l'avenir, nous allons nous organiser. J'ai pris l'engagement personnellement avec la BPI de monter la partie flottante de quelque chose autour de 6% qui est très limité, mais qui est très rassurant dans le contexte actuel parce qu'on n'aura pas comme ça des retours de papier après l'intro, etc. Parce que nous cherchons à avoir un cours qui monte pour pouvoir faire des acquisitions à des meilleures conditions. Mais j'ai pris l'engagement dans les deux prochaines années à remonter le flottant à hauteur de 25-30%.
Et vous pensez que c'est compatible avec une progression du titre ? Parce que vous avez des actionnaires qui n'aiment pas trop se faire diluer quand même.
C'est vrai, mais en fait, l'idée de dire qu'on va faire des acquisitions, on ne va pas faire des acquisitions qui sont diluantes. On l'a vu, nous avons fait 4 acquisitions sur 5 ans. Toutes nos acquisitions ont été votées par 100% de nos actionnaires. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toutes été relutives d'une manière très forte. Nous ne sommes pas prêts à faire des acquisitions qui soient à contrepartie de nos actionnaires. Je rappelle à tout le monde que je suis un grand actionnaire et je ne compte pas trop à me faire diluer pour rien.
Vous connaissez bien la bourse, hein. Depuis bientôt 30 ans, vous dirigez ouais. MEMSCAP, c'est une société qui fabrique des semi-conducteurs. La bourse, c'est exigeant, c'est beaucoup de transparence.
Exactement.
C'est viser le long terme, mais en même temps des actionnaires qui souhaitent du court terme.
Exact.
Comment vous allez pouvoir satisfaire leurs demandes ?
En fait, on a un news flow, à l'inverse de MEMSCAP, où à chaque fois, par exemple, MEMSCAP, nous, quand on signe des grands avions, des constructeurs, etc., eux, ils ne veulent pas annoncer. Ils veulent garder ça secret jusqu'au moment où la production démarre, donc 4 ans derrière. Là, ici, on a des clients qui ne veulent que qu'on annonce. Donc, nous sommes dans un groupe qui va avoir énormément de news flow du point de vue business. Nous serons en croissance cette année. Nous avons un flux aussi d'acquisition. Actuellement, nous regardons plusieurs dossiers, à peu près 5 dossiers que je regarde en parallèle. Donc, il y aura un news flow très fort dès l'entrée et plein d'actions qu'on va faire, même auprès des actionnaires particuliers, pour avoir autant d'institutionnels que de particuliers comme il faut l'avoir aujourd'hui en bourse pour que votre action performe.
Merci beaucoup Jean-Michel Caram de nous avoir accompagné ce matin, fondateur de Yeva Group qui va donc rentrer à la bourse à la fin du mois. Votre première séance, ça sera le 31 mars et la période de souscription se termine le 25 mars inclus.
Un grand merci pour m'avoir accueilli.
9h41, tout de suite c'est l'heure du face-à-face. On va revenir sur cette très grosse semaine avec les banques centrales qui ont pris la parole à tour de bras, que ce soit du côté du Japon, de la BCE, de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque nationale suisse et puis bien sûr la Fed, la Banque centrale américaine qui a également pris la parole mercredi soir. En plateau, Romain Aumont, macroéconomiste et stratégie chez Natixis IM. Bonjour Romain.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin et à distance depuis Londres, Isabelle Matteo-Silago, chef économiste groupe de BNP Paribas. Bonjour Isabelle Matteo-Silago.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Romain, pour commencer. Qu'est-ce que vous retenez là des banquiers centraux qui, en dehors de la Banque d'Australie, ont laissé leurs taux inchangés et sont un petit peu tous dans le flou face à cette crise énergétique?
Absolument. Donc, on s'attendait à ce qu'on ait des institutions centrales qui soient assez pragmatiques, étant donné qu'on est face à un choc dont on n'arrive encore pas vraiment à mesurer les impacts. On ne connaît ni l'amplitude de ce choc, ni la durée. Et ce qui est à la disposition de ces banques centrales à l'heure actuelle, c'est simplement des relevés de prix à la pompe pour savoir quelles peuvent être les dynamiques de l'inflation. Mais il n'y a pas encore vraiment de publications qui permettent de comprendre la manière dont ce choc est en train de se diffuser à l'économie réelle. Et donc, on a des institutions centrales qui nous expliquent que face à un choc d'offres exogène, énergétique, eh bien, il se peut que l'action de la Banque centrale à court terme n'ait pas vraiment d'impact lorsqu'on relève les taux, étant donné que c'est un choc purement d'offres. Et la question, c'est de savoir, et c'est ce qui a bien été répété par Mme Lagarde hier, c'est de savoir s'il va y avoir une diffusion de ce choc ensuite dans les composantes sous-jacentes. Est-ce qu'il va y avoir des effets de second tour? Est-ce qu'il va y avoir une diffusion plus massive de ce choc? On sait qu'habituellement, le choc énergétique se transmet à la composante alimentaire. La question, c'est de savoir, est-ce que finalement 2022 a laissé un stigmate? Un stigmate de quel sens? Est-ce que les agents sont disposés à changer leur prix? Est-ce que les entreprises vont pouvoir, avec une fréquence plus haute, changer leur prix? Est-ce que les ménages vont négocier plus fréquemment des augmentations de salaire? Donc la question, c'est de savoir, est-ce que finalement les mauvais souvenirs de 2022 sont en train finalement de revenir, ou est-ce qu'on n'est plus du tout dans ce cadre macroéconomique que l'on a connu il y a 4 ans?
Dans un instant, nous parlerons plus précisément de Banque Centrale, de la BCE, de la Fed. Mais c'est vrai que Isabelle Matteo-Silago, tout le monde a en tête le scénario de 2022, à l'époque avec la guerre en Ukraine où les prix de l'énergie s'étaient envolés. Bon, là, la différence, c'est que dans le cycle, on n'est pas du tout au même niveau.
Alors effectivement, il y a des parallèles et il y a des leçons à en retenir, et notamment le fait qu'un choc d'offre est quelque chose qui peut être dangereux. En même temps, les conditions initiales sont très différentes, et c'est cet équilibre à trouver entre voilà tirer les bonnes leçons et pas les mauvaises. Et je crois que toutes les banques centrales qui se sont exprimées cette semaine ont réussi à trouver le bon équilibre. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est que même si c'est vrai que hormis la réserve d'Australie, elles n'ont pas augmenté, elles n'ont pas changé leur taux d'intérêt, les banques centrales agissent aussi par leur verbe, par ce qu'elles nous disent, et toutes ont tout de même signalé très très clairement qu'elles étaient sur le qui-vive, que ce choc avait le potentiel de créer une dynamique inflationniste qui ne serait pas acceptable, et que donc il faudrait s'attendre potentiellement, même plus que potentiellement dans certains cas, à des hausses de taux. Et on le voit bien à la réaction des marchés qui ont retiré de leurs anticipations les perspectives de baisse de taux de la Fed et qui ont pricé de manière plus ferme des hausses de taux de la BCE et de la Banque d'Angleterre.
En conséquence, le marché obligataire a grimpé. Le Bund, le 10 ans allemand, a notamment touché hier les 3% pour la première fois depuis 2011, quand le 10 ans français flirtait avec les 3,7%. Sur la situation de l'Europe, Romain Aumont, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer des hausses de prix de la part des entreprises, ou à l'inverse, parce que les deux sont compatibles, des entreprises qui prennent sur leur marge? Comment vous anticipez un petit peu les scénarios dans un contexte où c'est vrai que les marges étaient déjà sous pression en 2025?
Les marges étaient en effet sous pression en 2025. Maintenant, on n'a plus du tout les déséquilibres de réouverture post-Covid que l'on a observé, donc du point de vue de l'offre et de la demande sur les biens, les services, sur le marché de l'emploi. Et la question, c'est de savoir, avec une économie européenne qui est attendue finalement en décélération en 2026, on attendait, nous, chez Natixis IM, aux alentours de 1,1% de croissance. La BCE est en train de communiquer sur 0,9% de croissance en 2026. Est-ce que les entreprises sont capables de pouvoir transférer la hausse des prix? Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment faisable, dans la mesure où on se retrouve dans un contexte également où, finalement, la posture de politique monétaire comparée à 2022 est quand même bien plus restrictive qu'elle ne l'était à l'époque, et qu'on n'est pas, finalement, face non plus à un soutien budgétaire massif que l'on a connu à l'époque. Donc, cet excès de demande qui permettait aux entreprises de pouvoir transférer une bonne part de la hausse des prix des intrants, pour nous, c'est quelque chose qui est peu probable. Donc, plus globalement, on pense que, finalement, c'est un choc d'offre qui est purement exogène sur les prix pour la zone euro, qui n'est pas nécessairement sur les quantités. On ne parle pas encore de rationnement énergétique comme on a pu le connaître suite à l'explosion de Nord Stream, notamment. Et la question, c'est de savoir, encore une fois, est-ce que on va avoir une diffusion de cette hausse des prix dans le sous-jacent, dans les composantes les moins volatiles de l'inflation. Et pour nous, ce transfert, eh bien, il est peu probable à l'heure actuelle.
Mais à la fin, il y a bien quelqu'un qui paye. Donc, c'est probablement les entreprises, c'est les marges des entreprises qui vont sûrement se dégrader provisoirement.
À court terme, oui. Maintenant, la question, c'est toujours de savoir quelle va être la duration de ce choc, la durée de ce choc. Et pour nous, dans notre scénario central, c'est quand même un choc qui est censé s'arrêter aux alentours d'avril-mai. Quand la Banque Centrale Européenne est en train de nous expliquer dans son scénario de risque qu'on va avoir des prix qui vont être structurellement plus élevés sur les marchés de l'énergie à horizon fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire aux alentours de juin, eh bien nous, on considère qu'aux alentours de juin, normalement, cette situation devrait s'être marginalement apaisée. Et donc ça, c'est notre scénario central, parce que globalement, on part du principe que Monsieur Trump, l'administration américaine, a quand même des élections de mi-mandat à la fin de l'année et qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir des tensions inflationnistes même aux États-Unis qui soient structurellement trop durables.
Néanmoins, il y a peu de chances que le pétrole revienne sur ses niveaux de début d'année. Pour rappel, on a été à 60 dollars au mois de janvier et au mois de février, on était aux alentours des 70-80. Il y aura toujours une prime de risque qui sera là.
Il y aura une prime de risque parce qu'on a quand même eu des infrastructures énergétiques qui ont été atteintes. On a eu quand même un certain stress qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Maintenant, on peut imaginer tout à fait, étant donné qu'on était avant la guerre quand même dans un excès d'offres structurelles de pétrole et de gaz, on peut considérer que la normalisation, comme finalement ce qu'imagine dans le scénario central la Banque Centrale Européenne, eh bien on peut avoir un scénario où le prix du baril décélère d'ici la fin de l'année sur des niveaux aux alentours de 75 dollars par exemple.
Tout dépend bien sûr de la durée de ce conflit, de l'ampleur, si la situation se dégrade, si comme cette semaine des installations gazières sont touchées, hein, c'était notamment le cas au Qatar. À partir de ces éléments, comment vous arrivez à modéliser la situation, Isabelle Matteo-Silago, chef économiste du groupe BNP, quels sont vos scénarios et le scénario principal ?
Oui, bah écoutez, moi je crois qu'il faut rester très très prudent sur l'évolution des prix du gaz et du pétrole et l'évolution en fait des hostilités dans la région. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien, ni nous ni aucune des banques centrales, et que par conséquent, on en est réduit à faire des scénarios. Pour l'instant, notre scénario central n'est pas très différent, je dirais, du scénario adverse de la Banque Centrale Européenne. Mais voilà, bon, on les met à jour, nos scénarios, aussi régulièrement que possible, quand il semble y avoir des pivots importants, et notamment les attaques qui ont eu lieu cette semaine sur des infrastructures de production énergétique dont les Qataris nous disent que ça va prendre plusieurs années pour les résorber. Bon, bah ça c'est un signal important qu'on passe dans un scénario de durée de hausse de prix qui va être plus importante que ce qu'on pensait auparavant. Donc ça, c'est le point de départ. Mais après, je crois que je voudrais revenir sur le point que vous évoquiez précédemment, c'est-à-dire bon, il y a le choc énergétique, mais ensuite, ce qui va être très important pour l'inflation dans son ensemble et la réaction des banques centrales, c'est comment les différents acteurs économiques réagissent à ça et à quelle vitesse est-ce que ce choc se propage dans l'économie, sachant que par ailleurs, il peut aussi y avoir d'autres mécanismes d'amplification, soit via les marchés financiers, soit via les taux de change. Donc je crois que la BCE a fait un travail remarquable en publiant ces scénarios pour bien montrer à tout le monde les différents paramètres qu'elle prenait en compte. Et voilà, il faut suivre l'évolution des événements, je dirais, au jour le jour, et puis affiner les scénarios. Mais à ce stade, le plus important, c'est surtout de ne pas se croire plus confiant qu'il n'y a lieu de l'être sur l'évolution des événements. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choc inflationniste qui est déjà dans les tuyaux. les prévisions de la BCE d'une inflation qui augmenterait à 2,6 cette année sont à peu près en ligne avec ce qu'on peut en dire nous. Au-delà, il faut vraiment voir comment évolue la situation sur le terrain et comment réagissent les acteurs économiques. Avec en plus, dans certains cas, par exemple aux États-Unis, la difficulté additionnelle qu'il y a le choc de propagation des tarifs douaniers qui continue à se faire. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'avait insisté Jérôme Powell lors de sa conférence de presse mercredi soir.
En ce qui concerne la BCE, la grande crainte en ce moment, c'est un scénario de stagflation avec donc plus d'inflation, comme vous venez de le souligner, puisque hier, la BCE a mis à jour ces scénarios. Elle prévoit entre 2,6 et dans le pire des scénarios 4,4% cette année. Pour rappel, elle visait en décembre 1,9% et moins de croissance entre 0,4 et 0,9 contre 1,2% précédemment. Est-ce que tout ça ressemble à une stagflation? Est-ce qu'il faut avoir peur de tout cela, Isabelle Matteo-Sillago?
Alors, je dirais, le scénario de stagflation, ça fait référence aux années 70, quand il y avait un chômage très élevé, une croissance à tonne, voire négative, une véritable récession, je crois que, et une inflation d'ailleurs qui était à deux chiffres à l'époque. On est très loin de tout ça. Par contre, sans aucun doute, ce choc pousse l'inflation vers le haut et la croissance vers le bas. Dans notre scénario central, qui est, comme je le disais, très semblable à celui de la BCE, on aurait un peu moins de croissance, mais en restant toujours très sensiblement en territoire positif. Bon, évidemment, dans l'hypothèse de choc plus adverse, on le voit dans les scénarios de la BCE, le scénario le plus sévère, on approche la définition technique d'une récession avec deux trimestres consécutifs de croissance négative. Néanmoins, en croissance annuelle, on reste au-dessus de 0%. Donc, je pense que c'est important de se souvenir que l'économie européenne est en bonne forme quand ce choc frappe. Nous, on avait une projection de croissance initialement de 1,6% pour 2026 et 2027. Donc, il y a de la réserve, il y a de la marge. C'est une économie qui est forte et qui est soutenue par un effort structurel de réarmement et d'investissement dans la transition énergétique qui, de toute façon, devrait se poursuivre, quel que soit ce qui se passe au niveau de la situation énergétique. Donc, qu'il y ait un ralentissement de la consommation, qu'il y ait un ralentissement des exportations, par exemple, si la demande mondiale est touchée, ça va être des freins, c'est clair. L'investissement privé aussi pourrait être atteint, mais les moteurs fondamentaux de ce rebond de croissance européenne, a priori, restent intacts. Donc, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Pour l'instant, la situation peut encore évoluer d'une manière parfaitement gérable. Après, bon, voilà, il y a des scénarios adverses qu'on ne peut pas exclure. Et puis, si c'est le cas, il y aura aussi des réactions de politique économique qui, pour l'instant, ne sont pas dans ces scénarios, mais qui se matérialiseraient vraisemblablement si besoin en était. Donc, je crois qu'il faut rester prudent et rester relativement confiant à ce stade.
Romain Aumont, Natixis-CM, comment vous regardez ce scénario de stagflation?
Alors pour nous, la stagflation, il y a une variable pivotale qui intervient, c'est le marché de l'emploi. Pour qu'il y ait stagflation, il faut une augmentation du taux de chômage. Et à l'heure actuelle, on voit en zone euro un taux de chômage qui est historiquement bas. On a aux États-Unis quelques craintes concernant les dynamiques de création d'emplois. Néanmoins, Jerome Powell le rappelait mercredi, quand on regarde le ratio, eh bien, celui-ci est toujours très bas. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on a une perspective de dégradation durable du marché de l'emploi. Pour nous, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et donc c'est aussi finalement ce qui amène des interrogations et des craintes du point de vue des institutions centrales, étant donné qu'on a des marchés de l'emploi qui sont quand même toujours assez serrés, même si on a une normalisation progressive et que les déséquilibres entre offre et demande de travail, encore une fois, se sont normalisés depuis quelques années. La question, c'est de savoir, est-ce que finalement les travailleurs ont encore un pouvoir de négociation? Ça a été rappelé par Christine Lagarde hier. Et la question, c'est de savoir, une stagflation, c'est quoi? À la fin des fins, c'est quand même des salaires qui augmentent, en sachant qu'on a une activité qui est déprimée, et cette augmentation de salaire qui vient se diffuser dans les parties sous-jacentes et dites visqueuses de l'inflation. Pour nous, on n'est pas encore dans un scénario qu'on pourrait qualifier de stagflationniste. En effet, il y a des risques. Le scénario sévère de la Banque Centrale Européenne nous montre une vision un petit peu cataclysmique des événements. Néanmoins, à l'heure actuelle, pour nous, c'est quelque chose qui a une faible probabilité de se réaliser.
En termes d'allocation, vous faites quoi aujourd'hui, Romain Aumont, chez Natixis IM, face à des indices européens qui ont lâché 8-10%? Et puis, à l'inverse, Wall Street qui sous-performait en janvier-février tient plutôt bien sur ce mois de mars.
Donc nous, depuis le début du mois, on a recommencé à vouloir tactiquement se réexposer en relatif dans la classe actif risqué aux États-Unis, parce que finalement on est face à une zone qui est beaucoup plus immunisée vis-à-vis de ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. On a tendance à lâcher un petit peu de lest sur les marchés européens, et on cherche quand même encore une fois un petit peu de diversification potentiellement du point de vue des émergents qui peuvent bénéficier à l'heure actuelle des prix des matières premières énergétiques qui sont plus hauts. Et donc, on essaie de chercher de la diversification du point de vue des indices actions.
Mais en tout cas, l'Europe, qui était une grande conviction, alors pas forcément chez vous, mais d'un point de vue général dans le marché, je me souviens en janvier-février, beaucoup d'investisseurs, de stratégistes surpondéraient l'Europe. Vous, vous êtes beaucoup plus prudent à ce stade, malgré la baisse de 10% des grands indices.
Pour nous, il y a eu une rotation un petit peu exubérante en début d'année où on commençait à vraiment dire le retour du moment européen, il y avait la fin de l'exceptionnalisme américain, la dédollarisation, tous ces concepts qui amenaient finalement à se réexposer sur les marchés européens. Nous, ça n'a jamais vraiment été trop notre scénario central, dans la mesure où on est face à des marchés américains qui génèrent des croissances bénéficiaires, qui finalement ont perdu et sont peu chers maintenant. Quand vous comparez par exemple le secteur technologique américain, il se paye à l'heure actuelle moins cher que le secteur technologique européen quand on compare le S&P et le Stoxx 600. Donc il y a peut-être eu un petit peu d'exubérance dans ces mouvements de marché, ce qui nous dit que finalement on peut aller chercher à s'exposer à l'heure actuelle sur les marchés actions américains dans leur ensemble, dans la mesure où, encore une fois, on est face à une zone qui va, selon nous, continuer à tirer la croissance mondiale, comme finalement le montre également la Réserve fédérale.
Très clair. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin en plateau. Donc Romain Roux, macroéconomiste et stratégiste chez Natixis IM. Et depuis Londres, Isabelle Matteo-Sillago, chef économiste groupe de BNP Paribas. Je vous rappelle la tendance à la Bourse de Paris. Après une baisse de 2% hier, le CAC 40 reprend 0,6%, 7859 points. Quand l'Eurostock 50 prend 1% à 5665 points. Séance bien sûr à suivre dans Tout pour investir. La masterclass avec Christopher Dembick à 11h et BFM Bourse cet après-midi à partir de 15h30. Mais juste avant, bien sûr, vous allez retrouver les experts avec Raphaël Legendre.
Oui, Étienne, bonjour et bonjour à tous. On va continuer de décrypter l'actualité de la crise au Moyen-Orient, bien sûr, avec les questions que vous vous posez. L'Europe risque-t-il de rentrer en récession? Est-ce que toutes les énergies vont flamber, le gaz, le pétrole, mais aussi l'électricité? On reviendra sur les retraites en France avec une réunion du corps et plusieurs études qui ont été présentées hier. Peut-on éviter un passage à 65%, ce sera l'un des débats des experts. Et puis on reviendra sur cette déréglementation bancaire aux États-Unis. Comment risque-t-elle d'impacter nos banques ici en Europe?
Voilà le programme des experts, 10h-11h. Très bonne journée.